suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Deux économistes atterrants viennent de publier un pamphlet d'un nouveau genre, un pamphlet qu'on pourrait qualifier de techno ou scientopopuliste. Pierre Cahuc et André Zilberberg y exposent une conception de l'économie qui relève, ne leur en déplaise, davantage de la norme que de la science, c'est-à-dire du débat pluraliste des méthodes, des concepts et des théories. Ils osent même un usage pour le moins scandaleux du terme négationnisme pour, dès le titre de leur ouvrage, Le négationnisme économique et comment s'en débarrasser, annoncer leur programme d'éradication de tous leurs collègues avec lesquels ils ne sont pas d'accord. Ceux, par exemple, qui estiment que la réduction du temps de travail a créé des emplois. Dans un communiqué publié ce mercredi, l'Association française d'économie politique, qui déplore un ouvrage au titre indécent et au contenu indigne de l'éthique scientifique, pointe les lacunes abyssales en histoire des idées économiques et en épistémologie des sciences sociales et expérimentales des deux auteurs qui, je cite, « ignorent les travaux récents du prix Nobel Angus Deaton sur les dispositifs expérimentaux ». Ça tombe bien. Angus Deaton, professeur à Princeton et en effet prix Nobel d'économie en 2015, est aujourd'hui l'invité de la suite dans les idées. Dans son premier livre traduit en français, qui paraît ces jours-ci aux presses universitaires de France, Angus Deaton pratique une science économique aux antipodes de celle de Cahuc et Zilberberg. Loin en effet de s'arrêter à des causalités simplistes toutes faites, et de réduire le monde social à des déterminismes invariables et modalisables mathématiquement, Deaton souligne, à propos des relations complexes entre revenus et santé, combien les facteurs sociaux, historiques ou culturels entrent en ligne de compte. C'est ainsi l'économie comme une science sociale qu'il entend promouvoir. Angus Deaton, bonjour.
Good day. It's very nice to be here.
Et bienvenue à la suite dans les idées. Je suis très heureux de vous accueillir à l'occasion de la parution pour la première fois de l'un de vos livres en français. Je le disais, ce livre paraît au PUF sous le titre « La grande évasion, santé, richesse et origine des inégalités ». Je voudrais qu'on commence par le titre, Angus Deaton, de votre livre, « La grande évasion ». Vous vous en expliquez au début, il y a une référence cinématographique qui pourra surprendre de prime abord. Quel rapport, en effet, entre ce film très connu qui raconte l'évasion d'un camp de prisonniers et la situation économique globale, y compris dans une perspective historique que vous entendez décrire en parlant du rapport entre santé, richesse, bien-être et inégalité.
Je crois que c'est une métaphore qui sert de fil rouge tout au long de l'ouvrage. La grande évasion. Ce qu'il y avait de formidable dans le film La grande évasion, ce que le public a aimé, c'est que ces gens, ces prisonniers, étaient dans de sales draps. Situation très difficile. C'était des gens qui avaient déjà tenté de s'évader. Les Allemands les ont enfermés dans ce camp de haute sécurité pour qu'ils ne s'évadent plus. Et ces hommes recourent à l'ingéniosité humaine pour trouver le moyen d'échapper, de s'évader de cette prison. Donc la prison, je vous le disais, c'est le fil rouge, la métaphore tout au long du livre, qui évoque la pauvreté sous toutes ses formes, y compris le manque de santé, le manque de bien-être, l'oppression, la pauvreté et l'emprisonnement. J'essaie de traiter dans ce livre de la manière dont l'ingéniosité humaine nous a aidés, nous les hommes, à nous échapper de cette situation de dénuement, de privation, notamment au cours des 250 dernières années. Alors, tout le monde ne peut pas s'évader d'une prison. Donc, l'évasion en elle-même va engendrer des inégalités, car certains auront pu s'échapper, d'autres non.
Peut-être,
à la fin, on y reviendra, mais le film, c'est pas un happy end non plus.
you worry that maybe humanity's great escape since the Enlightenment may only be a temporary phenomenon.
On peut s'inquiéter de ce que cette grande évasion qui s'est produite depuis le siècle des Lumières, eh bien, que ce mouvement s'arrête un jour ou ne soit plus possible. Moi, je ne le pense pas, mais c'est un risque réel.
Autre originalité, vous choisissez d'ouvrir ce livre en faisant le récit de votre histoire familiale. Vous êtes né à Édimbourg, en Écosse, d'une famille anglaise et écossaise, une famille de la frontière au fond, et vous racontez l'histoire de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents, qui est l'histoire d'une trajectoire sociale familiale ascendante, assez classique au fond, mais évidemment qui n'est pas non plus partagée par l'ensemble de ceux qui connaissaient la dure situation de la mine du Yorkshire dans laquelle votre famille maternelle est originaire. Vous revenez sur cette histoire familiale pour au fond faire sentir au lecteur que c'est l'un des modèles possibles d'évasion successive au fond. Votre père a joué un rôle considérable dans cette évasion, vous avez prolongé en choisissant peut-être d'aller vivre aux États-Unis, enseigner là-bas. Pourquoi avoir choisi d'ouvrir sur cet exemple très personnel, Angus Deaton?
C'était presque accidentel.
Par hasard.
Mais le livre était sur le point d'être publié. Et l'éditeur m'a dit, mais il te faut une préface, une introduction.
And I said, you mean where I thank my mom? He said, well, you can thank your mom, but
par exemple, est-ce que je dois adresser mes remerciements à ma maman, etc. Alors il m'a dit oui, mais tu peux ajouter une note un peu plus personnelle. Donc j'ai rédigé cette introduction assez rapidement. Mais je crois que c'était là, dans ma tête, et ça ne demandait qu'à être couché sur papier. Mais à l'évidence, oui, ça plaît aux lecteurs parce que beaucoup de gens peuvent s'identifier. Il y a des histoires familiales multiples qui ressemblent, ça leur fait penser à leurs grands-parents, arrière-grands-parents. Mais notamment en Amérique, aux États-Unis, où beaucoup de familles, enfin si on remonte à une ou deux générations, on trouve des migrants. Une jolie tradition qui existe aux États-Unis, c'est que les lauréats du prix Nobel sont invités par le président des États-Unis dans le bureau ovale. Et là, en 2015, nous étions quatre Américains à s'être vu décerner ce prix Nobel, mais un seul de nous quatre était né sur le sol américain. Les trois autres étaient des immigrants. Et son père, à lui, était né en Allemagne, venait d'Allemagne.
Vous situez votre travail, Angus Deaton, dans ce qu'on peut désormais appeler l'économie du bien-être. Cette notion est complexe et vous entendez, au fond, la maintenir comme quelque chose de complexe, quelque chose qui ne peut pas s'appréhender simplement en s'appuyant sur une ou deux variables. De ce point de vue, votre travail n'est pas sans rapport avec celui d'Amartya Sen, en particulier, qui est l'un de ceux qui a développé cette notion. Est-ce que ça vous semble participer d'un renouvellement récent de l'économie comme science sociale ?
Yes, I think it really is, and I've known Amartya Sen since mid-60s.
J'ai rencontré Amartya Sen, je le lis depuis le milieu des années 60. Il m'a beaucoup influencé dans ma façon de penser, car il a beaucoup d'humanité et il fait des liens avec la philosophie. La philosophie a perdu du terrain ces temps-ci dans le champ de l'économie, et je crois qu'il faut régénérer ce rôle de la philosophie dans l'économie. Mais je suis empirique aussi, j'ai commencé ma carrière comme mathématicien, après je suis passé à l'analyse des données, l'analyse des statistiques. Mais j'essaie de réunir l'humanisme d'Amartya Sen avec mes calculs mathématiques et ce que j'ai appris à faire en comptant et mesurant. Mais pour ce qui est du bien-être, en effet, c'est une question très complexe et je ne crois pas qu'il faille la réduire à un chiffre, car il y a effectivement, c'est multifactoriel, il y a beaucoup d'aspects et de dimensions.
On va revenir sur cette notion de bien-être et plus exactement sur l'appréhension que vous en proposez à travers ce livre, La Grande Évasion, dans lequel vous revenez sur la relation beaucoup plus complexe qu'on pourrait l'imaginer entre la santé et le revenu, entre l'amélioration de la santé et la croissance du revenu en économie. Mais avant ça, je voudrais qu'on reste un instant sur justement la manière dont vous êtes passé d'une pratique économétrique de l'économie. Vous le rappelez, vous avez commencé par les mathématiques, par des modélisations, à une ambition beaucoup plus large pour l'économie. Parce que peut-être souvent nous sommes dans une forme de caricature. Il y aurait d'un côté les fous des modèles mathématiques, les économètres, et de l'autre ceux qui garderaient une tradition de l'économie politique. Et au fond, à travers votre travail, vous montrez que on peut fonder les ambitions de l'économie politique dans une rigueur que les modèles mathématiques peuvent tenter d'imposer. Et on peut approcher la complexité aussi par des analyses de données. Il ne s'agit pas de faire d'un côté de la théorie et de l'autre de l'empirie, Angus Deaton.
Absolutely. No, I mean, you know, I come from Scotland.
In Scotland, vous avez raison. Vous savez, je viens d'Écosse et en Écosse, la tradition de l'empirisme et du scepticisme est très ancrée. Et moi, je suis très ancrée dans cette tradition empirique. Mais vous savez que l'Écosse a joué un rôle capital dans le siècle des Lumières, dans la montée des Lumières. Ils ont eu de grands philosophes, de grands économistes qui sont nés en Écosse. Et il faut surtout s'attacher à cette tradition, ne pas la perdre. Par ailleurs, aujourd'hui, nous croulons sous les données, nous disposons de beaucoup plus de chiffres qu'auparavant et on les traite de différentes manières. Mais tout cela devrait être mis au service de l'humanité ou du moins au service d'une meilleure compréhension de notre sort.
I mean, everyone believes in evidence.
Tout le monde croit à les preuves quand elles sont produites. La question, c'est comment utilise-t-on ces preuves et à quoi ?
Alors, l'une des questions principales, c'est évidemment celle de la définition de ce qu'on pourrait appeler, au fond, un cadre d'enquête, une manière de découper les données, de s'intéresser à certaines données de façon à tenter de produire des explications. C'est ce que vous faites avec La Grande Évasion, où, je le disais, vous réfléchissez au lien entre revenus et santé, qui est l'une des composantes du bien-être. Et le grand résultat, au fond, de votre travail, de ce livre, c'est de montrer que, contrairement à une idée reçue, eh bien, la santé ne s'améliore pas de façon strictement causale avec le revenu. Qu'on a des situations dans lesquelles de fortes hausses de revenus ne produisent pas d'amélioration notable de la santé et que, au contraire, on connaît des situations dans certains pays, à certaines époques, où, en l'absence de croissance du revenu, on voit néanmoins des progrès spectaculaires en matière de santé publique, Angus Deaton.
Absolutely.
Oui, vous avez raison, c'est cela. Et ça, c'est un message qui doit nous remplir d'espoir, d'ailleurs. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas piégé, prisonnier d'une machine où tout va dépendre du revenu, de l'économie au sens 3. On a des choix qui s'offrent à nous. Et ces options, ces choix, eh bien, il faut les faire collectivement. C'est à nous de décider à travers le jeu des politiques ce que l'on veut faire, le monde dans lequel on veut vivre. Vous savez, le marché n'apporte pas la santé tout seul, comme cela. Non, il ne faut pas compter sur les forces du marché, il faut s'engager dans une forme d'action collective pour mettre en place un bon état de santé pour tous. Ça s'appelle d'ailleurs la santé publique, et il y a une bonne raison à cela. On ne parle pas de santé privée, justement. Et ça repose sur l'action publique. Vous avez fait référence dans votre question à ces pays où il y a eu une forte croissance des revenus et pas beaucoup d'amélioration dans la santé. Un exemple parfait en serait celui de la Chine dans les années 70, par exemple. Et en fait, le gouvernement a fait passer des ressources qui étaient utilisées avant à garder les gens en bonne santé. Eh bien, il a décidé d'allouer ces ressources à l'enrichissement de sa population. C'était un choix politique. Mais on voit également de nombreux pays en Afrique où l'espérance de vie a fait un bond considérable, alors que le PIB n'a pas cru de manière parallèle. Mais on n'est pas piégé dans un système réductionniste et déterministe. On a des choix, on peut opérer des choix dans nos sociétés.
Alors, il ne faudrait pas non plus caricaturer vos propos dans l'autre sens. Vous reconnaissez l'importance de certains déterminismes sociaux. Ils existent, ils sont forts. Néanmoins, ils ne sont pas mécaniques. Ils ne sont pas fatals, en quelque sorte. Il y a de la place pour le politique. C'est ça la bonne nouvelle. Les politiques publiques, qu'elles soient menées à l'échelle des nations ou à celui plus global que nous tentons aujourd'hui, ou au contraire, au niveau micro-local, les marges de manœuvre politique existent, elles doivent être saisies par les citoyens. Au fond, c'est la leçon politique sur laquelle vous insistez dans votre travail, Angus Deaton, à laquelle plutôt vous aboutissez avec votre travail.
Vous avez raison, c'est tout à fait cela. Mais justement, les programmes collectifs jouent un grand rôle. La démocratie, ça ne s'arrête pas au vote, à mettre un bulletin dans l'urne. La démocratie, eh bien, c'est s'emparer des débats publics, arriver à faire que les citoyens comprennent les enjeux des débats publics. Vous savez, moi, je ne vais pas parcourir le monde en essayant d'aider les gens, mais avec ce livre, j'espère aider les gens à réfléchir à toutes ces questions si importantes.
Justement, comment vous considérez la place de l'économiste au sein de ce débat public ? On reproche souvent aux économistes de se comporter comme des experts dont les sentences viennent s'imposer avec une force qui n'est pas discutable par ceux qui sont des profanes en matière de sciences économiques. Comment vous envisagez l'articulation entre la production de savoir qui est la vôtre et la contribution à l'espace démocratique?
Parfois, effectivement, les économistes se sont fait une mauvaise réputation et qui n'était pas usurpée. On en plaisante, il y a des blagues, je suis un économiste, alors foutez le camp, vous qui n'y connaissez rien, nous seuls les économistes, nous comprenons entre nous.
Il
y a un peu de vrai dans cette caricature. Parce que, et il y a certains aspects de l'économie qui ne sont pas également compris ou appréhendés partout. Alors c'est si important. On sait comment le marché fonctionne, on connaît les incitations qui stimulent les marchés, tout ça c'est important, certes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres facteurs très importants, d'autres aspects de nos vies très importants.
Et vous savez, une des meilleures choses que j'ai vues dans ma vie professionnelle.
Une des meilleures choses que j'ai vues dans ma vie professionnelle au cours des 15-20 dernières années, en tout cas aux États-Unis, eh bien, j'ai assisté à l'ouverture du champ de l'économie. Et cette discipline s'est ouverte aux influences de la psychologie, de la sociologie, des sciences politiques. C'est inspiré de la philosophie, appuisé aussi dans la discipline de l'histoire. Et je ne suis pas le seul économiste à créer des passerelles avec tous ces autres domaines du savoir, ces autres disciplines. Et ça, c'est une évolution très encourageante. C'est excellent.
Si on s'arrêtait au livre que je citais en introduction de cette émission de Cahuc et Zilberberg, on aurait l'impression qu'en France, c'est l'inverse, mais qu'il y a un repli sur une forme scientiste d'économie qui tourne le dos aux sciences sociales. Fort heureusement, ce n'est pas le cas. On peut penser aux travaux de Thomas Piketty ou de Philippe Askenazy, de bien d'autres dizaines d'économistes qui considèrent cette discipline comme une science sociale. Je voudrais, Angus Deaton, qu'on s'arrête sur une autre idée forte de votre livre, La Grande Évasion, donc, qui paraît aux presses universitaires de France. C'est l'idée que, au fond, les inégalités sont le produit, bien souvent, du progrès. Et qu'il y a là une relation très intéressante à explorer parce que ça permet d'avoir une approche nuancée, je dirais, des inégalités qui sont à la fois scandaleuses, qu'il convient de combattre, mais qui sont aussi le moteur, le ressort de la lutte contre les inégalités.
Absolutely.
So I think c'est exactement cela, oui.
An area which is a huge battleground between the right and the left.
Là, il y a c'est un champ de bataille entre la droite et la gauche, ce sujet.
And for me, I think there's a lot more common ground there than there is often seen to be. You don't need a manichean.
Là, on a un terrain commun, pourtant, on n'a pas besoin d'avoir une vision manichéenne de la chose.
And so what you said, I thoroughly agree with.
Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez
great
d'exposer.
Episodes of human progress.
Et les grands épisodes du progrès humain dans l'histoire, eh bien, ont vu certaines populations humaines avancer tandis que d'autres stagner ou régresser.
So that generates inequality.
Donc
so
le progrès par lui-même engendre effectivement des inégalités. Mais donc être contre les inégalités, ça voudrait dire être contre le progrès. Ça n'a pas de sens.
And also, it would be nice if
il faut réconcilier les deux.
Together.
Bien sûr, on souhaiterait, ce serait formidable que tout le monde fasse des progrès en même temps, en parallèle. Mais ce n'est pas comme ça que le monde marche.
Well,
mais si ça fonctionnait bien, eh ben, l'inégalité créée, ça montre aux gens qui sont restés à la traîne derrière qu'il y a une possibilité à leur tour de s'échapper, de s'évader. Donc ça les motive.
So in the modern times, in the last 30-40 years,
as en ces temps modernes, au cours des 40-50 dernières années, on a tiré tous les profits de l'éducation, par exemple. Cela a créé des inégalités.
For more people to go to school.
Mais davantage d'éducation a aussi motivé plus de gens qui ont voulu à leur tour suivre un enseignement, apprendre.
So that's the good side
et
of it.
S'éduquer. Donc, il y a toujours ce côté positif, l'envers du décor.
But I also think that if you ask why it is that people get really upset about inequality, what is it that bothers them?
Mais si vous posez la question, qu'est-ce qui nous dérange tant que ça dans les inégalités? Qu'est-ce qui nous irrite à ce point?
This is something maybe something I've been learning over the last two or three years since
ça,
I wrote this book.
Quelque chose que j'ai appris ces deux trois dernières années après l'écriture de ce livre.
That I think people when they see other people getting rich or being much
quand des
richer
gens
than
voir
them,
d'autres gens s'enrichir ou devenir plus riches qu'eux, ils peuvent réagir de deux manières en fonction du contexte de ce qui se passe.
So one is, if
une des façons de réagir,
c'est
si quelqu'un s'enrichit parce qu'il a inventé l'iPhone, les smartphones ou Facebook, ou mais en inventant quelque chose qui améliore la vie des gens en général. Ou si quelqu'un s'enrichit parce qu'il a inventé le médicament contre le cancer, par exemple, il n'y aurait pas autant de ressentiment contre l'inégalité ainsi créée. En revanche, si le gouvernement verse des subventions, favorise certains groupes de gens pour qu'ils s'enrichissent, et si ces gens souhaitent à nuire aux autres, comme ce à quoi on a assisté avec la crise des systèmes bancaires, s'enrichir au détriment des autres, alors ça rend les gens furieux, ça les met en colère. Et ils estiment, à juste titre, que leur gouvernement travaille contre eux.
In which case, you know, the bad thing is not inequality, the bad thing is
rent
seeking.
Donc, ce qu'il y a de négatif, ce n'est pas forcément l'inégalité en soi, mais c'est quand on crée des situations de rente où certains groupes vont avoir accès à des subsides gouvernementaux ou des traitements de faveur. C'est ça qui rend les gens furieux.
Des privilèges, au fond. Est-ce que vous diriez que l'une des choses qui caractérise l'évolution des sociétés, en particulier probablement des sociétés occidentales depuis 20 ou 30 ans, c'est un accroissement des inégalités qui concerne en particulier un tout petit nombre de personnes qui sont devenues, en matière de, puisqu'on parle de revenus, extraordinairement riches. Et que cet écart n'a plus rien à voir avec ce qu'il l'était autrefois. Qu'en penser, qu'en dire, comment éventuellement le réduire? Convient-il de le réduire ou faut-il s'en servir pour tirer, au fond, le progrès?
Well, I mean, I'm not sure that, reducing the gap by itself,
je ne suis pas sûr que réduire ces écarts
through taxation, for instance,
à travers la fiscalité, par exemple, puisse suffire. Là, je vous parle des États-Unis, car c'est la situation que je connais mieux. Je crois que ce qui a empiré au cours des 30-40 dernières années, c'est le degré de lobbying. Tous les groupes d'intérêt qui se sont organisés pour trouver des rentes et des groupes déjà riches qui se sont servis du gouvernement pour s'enrichir encore davantage. C'est à ça qu'il faut s'attaquer, je crois, cette confiscation et ces situations de rente. Et cela, si on s'attaque à cela, sera plus efficace que par la fiscalité, je crois.
On arrive bientôt au terme de cette conversation, Angus Deaton, j'ai envie de vous poser une question peut-être justement un petit peu plus directement politique. Comment vous observez le débat politique actuel, hein, cette veille d'élection présidentielle, et notamment les aspects économiques de ce débat présidentiel?
Je suis assez inquiet, pas seulement pour les États-Unis, mais la Grande-Bretagne, l'Europe, de manière générale. Je ne sais pas si on peut qualifier ça d'inégalité, mais en tout cas, il y a un groupe important de gens, très importants, qui sont laissés pour compte. Ils sont à la traîne, ils estiment que la politique, leurs dirigeants ne font plus rien pour eux. C'est ça qui m'inquiète. Et je ne sais pas si Hillary Clinton a beaucoup plus à offrir à ces personnes que Donald Trump. Bon, Donald Trump serait encore pire, bien sûr, comme président. Mais c'est très troublant et inquiétant. Bien sûr, la politique a toujours été imparfaite par nature, mais en tout cas, c'est préférable à l'alternative, à aucune politique du tout, bien sûr. Mais c'est vrai que la politique, les politiciens sont très mal vus, et ça, c'est une source d'inquiétude dans notre monde.
Et quel peut être le rôle, du coup, de l'économiste dans cette situation? Est-ce qu'il s'agit de fournir au débat public des éléments de connaissance pour que ce débat soit peut-être un peu moins déconnecté de situation? Parce que c'est peut-être aussi cela le problème. Souvent, ce débat semble ne pas refléter véritablement ce que les sciences sociales nous permettent d'appréhender du monde.
C'est exact. Et pourtant, les choses se sont améliorées, à mon avis. Parce que les économistes, maintenant, ils s'expriment. Ils ne sont pas aussi timides que d'autres spécialistes des sciences sociales. Ils citent les chiffres, ils les balancent, ils en parlent. Bon, ce livre, c'est ma petite contribution, hein, à ce débat. Il faut parler des chiffres, il faut expliquer. J'ai travaillé sur les taux de mortalité depuis le Moyen Âge, etc. Enfin, tout ça, ça peut nourrir le débat politique. Les universitaires s'inquiètent d'écrire des articles qui soient passés sous silence. Bon, nous, on a pondu un article avec mon co-auteur et ça fait beaucoup de bruit. Donc, je pense que les économistes et leur travail ont un effet sur la marche du monde. Bien sûr, pas un effet immédiat, et ce n'est pas nous qui sommes aux manettes, qui dirigeons le monde. Mais on peut jouer un rôle et aider les gens à réfléchir.
Merci beaucoup, Angus Deaton. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de ce livre « La grande évasion, santé, richesse et origine des inégalités » qui nous apporte beaucoup de savoir et quelques bonnes nouvelles aussi, notamment cette idée que nous avons des marges de manœuvre politiques pour infléchir les choses, pour lutter en particulier contre les inégalités. On trouve les références bibliographiques du livre sur la page de la suite dans les idées, sur le site de France Culture. Vous pouvez également à vie réécouter désormais l'émission. Et vous pouvez également vous abonner, ce que je vous recommande chaudement, au podcast pour être sûr de ne pas manquer un épisode de la suite dans les idées. Toutes les informations sont également sur la page Facebook de l'émission. Merci à FDR qui a traduit les propos d'Angus Deaton.
Thank you very much. I very much enjoyed it.
C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production Catherine Denet, à la technique aujourd'hui Pierre Monteil, à la réalisation Jean-Christophe Francis. Et c'est Étienne Klein que vous allez retrouver dans quelques instants sur l'antenne de France Culture pour sa conversation scientifique.